Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Bonjour les devs. Alors, pour cette fois, ce n'est pas un épisode de news, on va faire un épisode spécial dans la lignée de. On avait déjà fait un épisode en janvier, si je ne me trompe pas, sur l'IA. Et donc, voilà, deuxième épisode de l'année sur l'IA. On va parler des RAG. Et puis, bah, comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex!
Salut Patrick, salut tout le monde. Super enthousiasme à l'idée de parler de RAG, parce que je pense qu'il y a. Alors, au-delà de la dimension technologique, je pense qu'il y a un vrai besoin métier et ça peut apporter beaucoup de valeur aux clients final et donc aux finaux. Clients finaux. Et je pense qu'il y a un petit billet à se faire. Et donc, c'est une techno qui me paraît super intéressante à utiliser, à maîtriser pour. Potentiellement, en fait, faire du business avec ça.
Ouais, c'est clair, c'est clair. On est qu'au début et c'est vrai que bon, même si le RAG existe depuis quelques temps quand même, il y a encore les entreprises, ils sont pas vraiment dedans, donc ils regardent de loin tout ça, mais à un moment donné, ça va se déclencher et c'est vrai qu'il faudra être un petit peu prêt pour répondre à la demande, même si bah, actuellement on parle du MCP, qui est quand même un petit peu différent parce que c'est moins bordé que le RAG, et on va en parler, mais voilà, le RAG, c'est un business qui va s'ouvrir dans quelques temps avec toutes les sociétés qui vont voir un peu l'intérêt du truc et qui vont peut-être faire des demandes pour développer des RAG. C'est ça.
Parfait. Donc, on dit le mot RAG depuis tout à l'heure. Ok,
Ouais.
on dit que c'est super bien. Nous, on est complètement hypé par ça, technologiquement parlant, mais businessment parlant aussi. On commence à rentrer dans le vif du sujet. Clairement, un RAG, c'est un acronyme. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, RAG, c'est Retrieval Augmented Generation. Donc, c'est une. Alors, j'avais entendu un Canadien l'autre jour dire, j'ai oublié comment il l'avait présenté, c'était pas mal. Bah, c'est juste une génération LLM, mais avec du contexte et voilà, par rapport à un contexte qu'on a retrouvé dans une base de données documentaire. Et puis, donc, on lui donne au LLM, il va digérer tout ça et sortir une réponse qui concerne en fait le contexte qu'on lui a redonné. Donc,
En
voilà, il y a
fait,
différentes phases. Ouais.
est-ce qu'on pourrait dire que c'est une augmentation de contexte et
Ouais.
que en fait le LLM n'est juste là uniquement pour verbaliser, utiliser en fait
C'est ça.
son savoir-faire grammatical, on va dire, de construire un texte, construire, générer des phrases. Par contre, la véracité des informations, elles sont issues de notre base de données avec nos propres documents. Et donc potentiellement, ça peut être fermé, ça peut aussi être, quand je dis fermé, ça veut dire on peut éviter d'envoyer nos informations à ChatGPT parce que potentiellement, on ne sait pas si on peut avoir des leaks ou pas. Voilà, mais potentiellement, en fait, tout reste chez nous. Donc, tout notre savoir-faire, tous nos documents, les documents peut-être top secret ou je sais pas quoi, on pourrait les mettre là-dedans et ça ne sort pas de chez nous, mais on utilise en fait le LLM juste pour verbaliser, quoi. Est-ce que c'est à peu près ça le concept?
Ouais, c'est ça. Le LLM, en fait, là, dans ce schéma, il va servir uniquement à générer les réponses. On va juste lui donner des trucs et il va générer des réponses. C'est un générateur de réponses, en fait. Voilà. Donc, en fait, on va de suite passer aux avantages du RAG, en fait. Comme ça, c'est fait. Premier avantage, c'est le contrôle du contexte. Parce que, comme tu le dis, en fait, c'est des données qui nous appartiennent. Donc, on garde le contrôle dessus et on va juste donner ce qui est nécessaire pour générer la réponse. Donc, voilà. Qui correspond à la requête de l'utilisateur. Le deuxième super avantage, en fait, c'est par rapport à l'utilisation classique d'un LLM, en fait, l'utilisation du RAG, c'est que ça limite totalement les hallucinations. C'est-à-dire que, tu sais, bon, vous connaissez tous les problèmes d'hallucinations, il va générer des réponses un peu qui n'ont rien à voir, juste pour pas dire qu'il sait pas. Ou, enfin, voilà, c'est le principe du LLM parce que voilà, il est là pour générer des réponses et assembler des mots. Bah ça, on le limite complètement parce qu'on lui dit, si tu trouves pas la réponse dans ce que je te donne en contexte, bah tu dis, je sais pas. Voilà. Tu dis, je peux pas vous répondre. Voilà. Et généralement, ça marche bien et donc il n'invente pas des réponses. Pas mal.
Et bah ouais, parce que pour le coup, d'autant plus si on a des questions hyper spécifiques et comme on le sait, le LLM, c'est large, large model language, ok. Donc, c'est pas très, très spécifique. Comme par exemple, si on avait des documents hyper techniques, je sais pas, sous la soudure, à l'argon, sous l'eau, par exemple, c'est ultra spécifique. Évidemment que les LLM classiques qui ont été entraînés sur des jeux de données, on va dire, génériques et standards, ne va pas avoir sa réponse-là. Donc, sur des documents qui sont ultra spécifiques, ultra techniques, là, pour le coup, les possibilités d'hallucination sont faibles, quoi. Parce qu'on les a alimentés avec des bonnes infos.
Et excellente transition, puisque le troisième point, troisième avantage, c'est qu'on spécialise un modèle, en fait, dans un secteur, donc tu dis soudure à l'argon par exemple, vraiment hyper spécialisé. Et ben on le spécialise là-dedans sans avoir besoin de l'entraîner ou quoi que ce soit. Donc on a un LLM qui est capable de répondre à des questions très très pointues, très pointues sur un domaine précis sans qu'on ait besoin de l'entraîner.
Et du coup, ça peut coûter aussi beaucoup 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 moins cher d'entraîner son propre modèle de soudure à l'argon, quoi.
Ouais, parce que c'est l'entraînement qui coûte le plus cher de toute façon, donc plus que l'inférence. Donc évidemment, oui, ça coûte beaucoup beaucoup moins cher d'avoir. Donc c'est très utile et c'est pour ça que il y a déjà des choses qui existent dans tout ce qui est juridique, etc. Donc voilà, qui est très spécialisé dans certains domaines. Et c'est ça l'intérêt vraiment du RAG, c'est de spécialiser dans un domaine spécifique. Donc c'est pour ça que les sociétés potentiellement seront intéressées, puisque voilà, des sociétés qui sont spécialisées dans certains domaines vont vouloir avoir, mais après des fois c'est même pour l'utilisation en interne de la société, voilà, d'avoir un chatbot qui est capable de répondre à des questions techniques sur, voilà, sur le métier, etc.
Je pense aussi aux RH, ou par exemple les politiques de vacances, par exemple, ou les politiques de journée congé, des enfants malades ou des choses comme ça. On rentre toutes les données, en fait, dans cette base de données qu'on va voir, qu'on va décrire. Et potentiellement, en fait, tous les utilisateurs pourraient avoir un espèce de chatbot pour, en fait, poser les questions. Voilà, j'ai un enfant malade, qu'est-ce que je pourrais avoir ? Pim bam. Là, on sort la politique spécifique de l'entreprise grâce à un RAG. C'est des choses qui peuvent être facilement, pas si facile, mais en tout cas qui peuvent être mis en place et qui peuvent amener, en fait, beaucoup de valeur pour les employés, quoi, clairement.
C'est ça, c'est ça. Et du coup, juste en aparté, le RAG, on dit souvent chatbot, mais le chatbot, ça ne s'applique pas uniquement à un site web ou une interface web. Ça peut être aussi dans Teams, dans tous ces trucs de chat qu'on a en interne, etc. Voilà, on branche le système et après les gens posent la question comme si c'était une personne de l'entreprise, quoi.
Ouais, toutes les outils de messagerie interne, ouais, voilà. Bien sûr, ouais, carrément, carrément. À la limite, ce qu'on peut faire, vu qu'on maintenant on a présenté un petit peu le RAG, ce qu'on peut faire, c'est essayer de comprendre en fait le mécanisme de qu'est-ce qui se passe techniquement, quelles sont les étapes en fait d'une requête. Quand on va prendre l'exemple d'un chatbot, voilà, le chatbot, il a besoin de répondre à des questions. Qu'est-ce qui se passe ? Et à la limite, on a un petit schéma qui vient en fait quand même assez bien expliquer les choses. À la limite, ce que je te propose, on prend vraiment toutes les étapes une par une, et comme ça, on comprend en fait étape par étape, et surtout quel est l'impact technologique pour nous. Qu'est-ce qu'on va être obligé de mettre en place, quoi ?
Ouais, c'est ça. Donc on va après on va détailler le long de l'épisode, mais là pour résumer simplement, on a une base de documents. Donc ça peut être des PDF, ça peut être un site web, ça peut être des pages web, ça peut être voilà, différentes choses. Ces documents, on va les passer, alors on va les chunker, ça veut dire on va les découper en morceaux, tac tac tac, parce que évidemment les documents sont beaucoup trop gros. Et pour avoir plus de précision par rapport au vecteur, en fait, on va les réduire et on va passer avec tous ces morceaux de texte dans un modèle d'embedding. Donc il y en a plein. Lui, il va s'occuper de transformer ce texte en vecteur. Donc c'est des suites de numéros, voilà. C'est des trucs illisibles. Et ça, on va le mettre dans une base de données vectorielle. Voilà. Tous ces morceaux. Et ensuite, ça nous permettra en fait de rechercher dans cette base de données vectorielle. Et ce qui est les bases de données vectorielles sont assez efficaces pour retrouver des mots, tout ça, etc., des similarités entre les textes, etc. Voilà.
C'est après, ce qu'on appelle, voilà. En fait, c'est toute la recherche qu'on appelle sémantique, c'est-à-dire pédale de vélo. On va utiliser le mot braquet, le mot vélo, le mot selle de vélo, le mot guidon. Mmh. Tout ça, ça fait partie du champ sémantique. Et donc, potentiellement, quand je dis des chaussettes thermiques ou des bottillons ou des chaussures néoprènes, potentiellement, en fait, le modèle en fait, va être en capacité de faire le rapprochement entre tous ces mots-là. Alors que si on utilise un moteur de recherche classique sur des mots clés, si le mot-clé n'apparaît pas, on ne va pas pouvoir le faire sortir. Qu'avec justement cette recherche sémantique, et on va pouvoir faire des agrégations. Donc, c'est bien plus intelligent. Quoi.
C'est, okay. C'est ça. Ouais, on y reviendra juste après, expliquer un peu plus le vecteur, comment ça fonctionne. Mais ouais, c'est ça. Et ensuite, une fois... Alors ça, c'est tout ce qu'on fait en amont. On va préparer la base de données, tout ça. C'est vraiment un travail qu'on fait au début. Et ensuite, on va brancher ça donc, sur un LLM. Et donc, une personne va poser une question dans un chat. Oui, je cherche une route vélo. On va aller chercher dans la base vectorielle route, tout ce qui est en rapport avec la route vélo.
Par contre, attends, Patrick, je veux juste être super clair là-dessus pour être sûr que j'ai bien compris. C'est la requête, en fait, elle va passer en fait, dans le modèle de embedding. Ça veut dire que la question que la personne a posée, elle va être transformé aussi en vecteur et après ça va dans justement faire la recherche pour aller chercher en fait tous les éléments qui sont propres à cette requête là mais la requête elle est transformée en embedding, ce qui fait que toutes les requêtes en fait ne sont qu'une agglomération de vecteurs en fait, c'est ça?
Ok. Donc on fait ça, une fois qu'on a donc retrouvé les éléments qui correspondent, le texte qui va nous renvoyer le vecteur, du texte, on va tout simplement construire une requête au LLM, donc n'importe quelle, ça peut être OpenAI, ChatGPT, n'importe quoi, GPT-4 ou autre. Et on va construire le modèle en lui posant, donc on va faire un prompt avec différentes choses, en lui disant, voilà, voici le contexte, répond par rapport à ce contexte, à la question de l'utilisateur, et voilà. Et donc en général, il prend tout ce qu'il a, dans le prompt avec le contexte etc, et il génère une réponse et il la renvoie et voilà, mais généralement c'est assez satisfaisant et si vous avez bien fait votre travail, la réponse devrait plaire et être en adéquation avec la question.
Ok, mais quand tu dis il faut bien faire le travail, clairement nous là ce qu'on fait, on vient juste câbler différentes technos quoi, donc en quoi le câblage va changer quelque chose?
Alors, moi, je pensais... Au début, je pensais que c'était plutôt simple. Parce que finalement, c'est vrai que sur le papier, comme ça, tu dis, bon, OK, chunker du texte.
C'est compliqué, quoi.
Embedding model, je mets dans la vector, je vais chercher le truc. Ouais, c'est pas compliqué, quoi. C'est des trucs qu'on fait, quoi. Chercher dans une base de données, afficher du texte. Et ben, en fait, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est assez technique, finalement. Et la première partie, donc, on va parler d'une première partie, tout ce qui est chunk, tout ça, c'est quasiment la partie la plus importante, en fait. Du RAG.
Le chunkage. Que,
de cette partie-là va dépendre en fait les résultats de recherche dans la base vectorielle. Et ensuite, si le contenu de recherche correspond vraiment à la requête, c'est là où la réponse du LLM va être encore plus en adéquation. Donc la partie du chunk, tout ce qui est découpage de documents, est vraiment primordial dans le RAG en fait. Vraiment, vraiment.
Ok. Et est-ce qu'on pourrait prendre par exemple. L'exemple, on doit prendre un livre, on doit l'intégrer en fait dans notre base de données vectorielle. Est-ce qu'on va prendre des chapitres? Est-ce qu'on va prendre des pages? Est-ce qu'on va prendre des paragraphes? Est-ce qu'on va prendre petit 1, petit 2, petit 3? Est-ce qu'à l'intérieur de ces paragraphes, on va découper en petites phrases? Tout ça, en fait, va avoir vachement d'importance, quoi. C'est ça?
Ouais, ça a beaucoup d'importance et il faut savoir qu'en fait, il n'y a pas de règle universelle. En fait, à chaque fois, il faut s'adapter au contenu.
Okay.
Le truc, c'est de ne pas perdre justement le sens des phrases, des textes, en fait. Donc en fait, en fonction de comment tu vas le découper, tu perds le sens et donc le modèle d'embedding va faire l'embedding, mais il va perdre vraiment le sens de tes datas. Donc, en fait, c'est vraiment une adaptation à chaque fois aux fichiers, aux documents, etc. Donc, il n'y a pas de règle universelle. En tout cas, pour l'instant, moi, j'en ai testé plein. Et j'ai, voilà, à chaque fois, il faut s'adapter au contenu. Et on ne peut pas dire à chaque fois, bah, je vais découper en 200 tokens, etc. Et puis, c'est réglé. Quoi. Non, en fait, à chaque fois, tu dois changer.
Okay.
Il y a énormément de techniques, en fait.
Et en tout cas, pour l'instant, on n'a pas trouvé la technique qui marche partout, tout le temps, dans tous les contextes. Quoi.
Non. Non, en tout cas, bah après, je ne suis pas un expert, expert, mais ouais. J'ai pas mal fait de recherches, etc. J'ai pas mal fait de tests aussi. Et c'est vrai que, non, y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de technique universelle. Moi, il y a une technique dernièrement, alors j'avance un peu, mais j'ai une technique que j'aime bien, c'est de découper un document en plusieurs morceaux, mais de garder le document par an. Et donc, tu vas chercher dans la base vectorielle les éléments enfants. Et après, tu récupères par rapport à ces éléments enfants qui correspondent à la requête. Tu vas récupérer l'élément parent. Voilà. Et donc, je retrouve le document. Alors ça marche bien. Par exemple, j'ai fait des tests sur des fiches de formation. Ça marche bien parce que les fiches de formation, elles ne sont pas énormes au niveau du contenu. Mmh. Donc, ça colle. Tu vois. Donc, je peux quand même mettre dans le contenu les fiches de formation qui sont pas... Il n'y a pas énormément de texte. Mais par contre, quand on fait la recherche dans la base vectorielle, ça matche plus facilement, tu vois. Mais voilà, il y a énormément de techniques. Et si tu vas sur le web chercher les techniques de Cheng et tout ça, tu vas trouver des tonnes d'articles.
Et là, c'est le puits, c'est le rabbit hole dans Alice aux Merveilles, Alice au Pays des Merveilles, où là, tu tombes dans la tanière et c'est infini, quoi. OK. Et donc, ce système-là, c'est ce que tu appelles le chunkage, le chunker. On vient découper, en fait, le texte. Et pour ça, en fait, on a différents outils qui nous permettent, en fait, de choisir la longueur, le pli, en fait. C'est-à-dire, entre ton premier paragraphe et ton deuxième paragraphe, est-ce que tu vas faire une rupture nette ou tu vas avoir une espèce de tuilage entre les paragraphes. Et là, ce qu'on voit à l'écran, c'est justement où, en fait, tu viens rentrer tous ces paramètres-là pour avoir plus ou moins de granulométrie, quoi. C'est ça ?
Ouais, t'as dit. Alors, t'as le chunk assez basique où tu vas régler la longueur de caractère, où tu peux splitter par paragraphe ou des choses comme ça. Et comme tu dis, il y a l'overlap qui permet, en fait, de garder un petit morceau du paragraphe de précédent et un petit morceau du paragraphe suivant pour ne pas perdre le contexte, en fait, des textes entre eux. Donc ça, c'est vraiment le truc classique chunk, voilà, basique, bête et méchant. Par paragraphe, etc. Tu peux, ou par retour à la ligne, ou tu peux prendre un titre et un paragraphe. Voilà, vraiment, tu peux, voilà, tu mixes ton truc comme tu veux, mais c'est vraiment le truc basique. Là, il n'y a pas de réflexion particulière. C'est juste, on découpe en morceaux, quoi. Voilà, pour le coup. Voilà, tu vois, le text splitter, c'est... Alors là, c'est un truc pour tester différentes techniques, en fait. Voilà, en fonction de la taille, etc. Tu as le sémantique aussi, capable de détecter, en fait, un peu plus de sémantique. Et ensuite, il y a les techniques aussi où tu peux utiliser un modèle. Tu vas lui envoyer le texte et tu lui dis, bah, découpe-moi en morceaux, en chunk logique, ce texte, par exemple.
Mmh. Ok, donc en fait, tu vas... Est-ce que là, on n'est pas rentré dans le mode un peu Inception où, en fait, tu vas utiliser un modèle pour chunker des informations que tu vas envoyer à un autre modèle, c'est ça ?
Ouais, mais c'est ça, mais c'est hyper important, en fait, que ce soit vraiment chunké d'une façon logique. Tu peux avoir aussi la technique. Il y a une technique aussi, tu vas lui faire... par exemple, c'est un contenu de... Alors, j'ai déjà eu du contenu de mauvaise qualité. Ça arrive, hein, sur des sites un peu anciens ou voilà. Bah, tu lui fais réécrire le contenu. Tu lui dis, fais-moi résume-moi ce texte, hein, ou clean-le-moi.
On ne comprend pas ce que l'auteur voulait dire. Est-ce que tu peux expliquer en français?
Voilà, ou optimise-le pour toute la recherche vectorielle, etc. Donc voilà, tu peux utiliser des modèles. Il y a des modèles qui existent que tu peux faire tourner en local quand tu utilises du Python. Ils sont capables de te faire en local. Ou sinon, tu peux utiliser des modèles en... Voilà, les tokens, ça ne coûte pas une fortune non plus. Quand tu utilises des API, OpenAI, tout ça, tu peux le faire. Donc, ouais, y a vraiment énormément de techniques de chunk. Y a aussi des services qui te permettent de chunker les PDF, par exemple. Les PDF, c'est assez complexe parce que, tu sais, il y a beaucoup d'éléments de décoration. Tu vois, les numéros de page, etc. Donc, c'est très compliqué à chunker. Donc, il y a aussi des services qui te permettent de découper les PDF d'une façon assez propre, qui vont le nettoyer, etc. C'est très, très, très vaste. Ouais, mais cette partie-là est primordiale, quoi.
Ouais. Et pour le coup, toi, tu penses qu'il faut vraiment passer un peu de temps là-dessus parce que c'est ce qui va amener la plus grosse valeur ajoutée à tout le système. C'est vraiment la qualité de tes chunks, quoi.
La qualité du traitement du contenu, c'est ce qui va faire découler en fait la qualité de ton RAG en fait.
Okay.
Si tu as une bonne qualité de contenu, un bon découpage, etc., et une bonne insertion dans la DB, tu auras des bons résultats au niveau de la DB, tu auras du bon contexte et tu veux, voilà. Et le LLM, quand tu lui files du contexte correct qui est OK, il est capable de formuler des bonnes réponses.
D'accord. Ok. Donc, premier point clé, la qualité du chunk. Est-ce qu'on pourrait dire que le deuxième point clé aussi, ça va être ton modèle d'embedding, c'est-à-dire le modèle qui va te permettre de prendre de la donnée et de le transformer en vecteur.
Ouais, ça c'est pareil. Ouais, ça c'est très important.
C'est l'étape numéro 2.
Ouais, c'est ça. Le modèle d'embedding, en fait, il va comprendre le sens de la phrase, tout ça. Donc, il va le découper en fonction de ce qu'il comprend, etc. Donc, le modèle d'embedding est super important. Alors, on n'a pas parlé des dimensions encore. Il y a beaucoup de dimensions. Alors, parlons de suite de ce que c'est les vecteurs. Comme ça, on va mieux comprendre. Alors, les vecteurs, en fait, il faut le voir comme une grille avec x, y. En fait, vraiment horizontal, vertical. Et pour chaque mot, en fait, il va mettre un point sur cette grille. Donc, par exemple, une chaussure, tu as un point. Et je sais pas, un pied, imaginons un pied, il va mettre un point. Et forcément, le point pied-chaussure sera peut-être pas trop éloigné, puisque ça a un lien entre les deux. Par contre, si tu mets un arrosoir, l'arrosoir, le point sera beaucoup plus loin. Et en fait, les vecteurs, c'est ça, en fait. C'est des positions dans une grille. Et s'ils sont plus ou moins loin, en fait, ça veut dire qu'ils sont liés ou ils sont pas liés, etc. Voilà en gros ce que c'est le vecteur. Donc, c'est une représentation comme ça, vectorielle, des éléments dans une grille. Et qui, voilà, chaque... Donc, c'est important parce que le modèle d'embedding, il va comprendre les mots, etc. Et c'est là où il va bien les placer ou mal les placer. Voilà. Et ensuite, il y a un nombre de dimensions. Donc, il y a des modèles d'embedding qui font peu de dimensions. C'est 256 dimensions, je crois. Et ensuite, on monte sur les modèles OpenAI, par exemple, le Text Embedding 3 Small, par défaut, il fait 1536 dimensions. Donc là, c'est déjà beaucoup plus. Donc plus de points vectoriels pour des mots. Donc plus de précision.
Et est-ce qu'après, le fait d'avoir plus de dimensions, est-ce que c'est plus précis ou pas spécialement?
Normalement, c'est plus précis. Par contre, ça prend beaucoup plus de place dans la base de données. Donc on en parlera après, mais plus, voilà. Et ça consomme plus de ressources aussi pour faire la recherche. Mais voilà, c'est donc il y avait voilà, c'est après c'est un coût, mais par exemple l'OpenAI le moins de vecteurs c'est 1536, et après le embedding 3 large, je crois c'est 2000, je sais plus combien il y en a, mais c'est beaucoup plus.
On peut peut-être montrer en fait le leadboard en fait qu'on a sur Hugging Face. Pour le coup, si vous ne savez pas ce que c'est Hugging Face, on vous rappelle d'écouter l'épisode précédent où on parle d'IA, et justement c'est un acteur majeur dans tout l'écosystème de machine learning et d'IA, de modèles, de datasets et de tout ça. Pour le coup, ils ont une page dédiée en fait sur où ils présentent en fait tous les modèles d'embedding, et avec plus ou moins une classification, même si je pense que c'est un peu difficile de se retrouver au milieu de tous ces paramètres-là et de savoir quel est le meilleur pour moi, quoi.
Alors ouais, tu vois, tu fais bien de monter le tableau parce que j'ai oublié un truc dans les modèles d'embedding, parce que nous, on parle français. Enfin, en tout cas, notre contenu est souvent en français. Et évidemment, c'est très important de prendre un modèle embedding multilingual. Sinon, ça marche pas bien.
Oui. Et oui, carrément. Et est-ce que celui de Mistral est optimisé français ou pas du tout?
Pas sûr, tu vois, parce que généralement c'est marqué dans le nom multilingual. Donc là, c'est pas marqué, donc je pense que non.
Ok. Et texte multilingual.
Après, faut regarder dans les détails, mais.
Ouais. Ok.
Faut regarder dans les détails. Mais non, après ils sont plus ou moins bons, la plupart. Après, ça c'est des tests automatiques, tout ça. Mais voilà, après, c'est intéressant ce tableau parce que tu as l'utilisation de mémoire, tout ça, nombre de paramètres, tout ça. Et la dimension surtout qui est super importante.
D'accord.
Tu vois, on monte à 4000, 8000, 8000 dimensions. Enfin, c'est énorme après. Hein. Ça commence à faire des trucs assez énormes.
Très, très gros. Très, très gros. Mmh. Et pour le coup, ça, c'est un petit peu la même chose sur tous les modèles. On va retrouver des modèles open source, on va retrouver des modèles privés, des modèles qui sont accessibles que via leur cloud, via leur propre instance, ou des modèles qu'on peut installer sur des machines chez les gros opérateurs ou chez notre bar métal ou notre GPU de ma boule, quoi. Ok.
Ouais, après, honnêtement, les modèles OpenAI sont pas très coûteux. Hein. Honnêtement, tu peux embedder pas mal de textes, de tokens et tout ça. Ça coûte pas cher.
Ouais.
Non, ça coûte pas cher. Et attention, parce qu'en local, ça peut être assez consommateur de ressources, suivant ce que tu veux.
Ok. Après. Peut-être
j'ai déjà fait planter mon Mac une fois grâce à un modèle dans Medi.
Ouais, mais t'as une charrette. Mais
c'est la première fois, j'avais jamais eu ça. Il s'est complètement arrêté le truc.
Ouais. Après, c'est peut-être pas débile aussi si on a une bonne bécane de générer en fait. Je pense par exemple à une base de données ou des produits d'articles commerce. On veut donner en fait une représentation vectorielle de tout notre catalogue, potentiellement, on vient générer ces embeddings en local, puis après, on les stocke sur la DB, mais cette création, en fait, on l'a fait une seule fois. Donc, voilà, par rapport au coût, par rapport à la rapidité d'exécution, voilà, ça peut peut-être amener une valeur de le faire en local, sous couvert que le modèle... puisse tourner en local. Ça, c'est un autre sujet,
des fois, c'est franchement le coût, il est vraiment minime et des fois, ça vaut pas le coup de s'embêter, quoi.
Ok.
Ouais,
Ça marche.
Ok. Je suis pas représentant OpenAI, mais j'ai pas de.
T'es payé par Sam. T'es payé par Sam.
Voilà.
Sam, il a voulu sponsoriser le podcast, je crois, non ? Un truc comme ça, non ?
Ouais, il nous a appelé, mais on a refusé. Non, je veux dire qu'à un moment donné, des fois, c'est pas un coût énorme et parfois économiser. Alors, si t'as un serveur, t'as un peu d'argent, tout ça, t'es une société, c'est différent. Tu peux éventuellement acheter un serveur et tout ça. Quoi qu'en ce moment, c'est peut-être difficile de trouver des GPU, mais faire tourner sur son Mac aussi, c'est quand même un coût parce que ton Mac, tu le fatigues un peu plus et tout ça. Peut-être qu'il durera moins vite, enfin moins longtemps en tout cas. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'économiser
une poignée de dollars et c'est fait en 30 minutes alors que sur ta backend, t'en as pour 4 heures ou 5 heures ou 6 heures.
Puis la qualité est vraiment bonne le modèle d'embedding. Après, il y en a d'autres. Il y a Cohere, je ne sais pas comment on dit Cohere. Il y a plein de modèles qui sont super excellents.
Yes. Ok, donc maintenant qu'on a chunké nos documents, on les a envoyés en fait à notre modèle. Là, on a récupéré le vecteur, donc cette espèce de fichier avec plein de chiffres à l'intérieur. Sauf que maintenant, il va falloir qu'on stocke ces données-là dans une base de données qui a la capacité de stocker en fait ce type de fichier. Donc on a les strings, les numbers, des JSON, et là en fait on a du vecteur.
Du vecteur, ouais, c'est ça.
C'est ça. Et donc
c'est ça. Capable de stocker du vecteur en fait. C'est une base de données capable de stocker du vecteur, de représentation vectorielle, et surtout de faire de la recherche. Surtout ça.
Ok, après la stocker et surtout, de faire des appels, quoi. Bien sûr.
C'est ça qui est assez coûteux en ressources, en fait, c'est la recherche. Donc, c'est la recherche par similarité. Donc, okay. Il va comparer les points et comparer ceux qui sont les plus proches, tout ça.
qui va te donner une sorte de distance entre chaque point. Et, ok.
Ouais. Donc, oui, vas-y.
Et donc, il y a plusieurs types de bases de données qui existent. Il y a des bases de données qui sont dédiées et qui ne font que du vectoriel. Mais il y a aussi des bases de données en fait, qui ont évolué ou sur lesquelles on peut mettre des extensions. Je pense par exemple à Postgre qui a son extension qui s'appelle PG Search. Non, PG Vector,
PG
pardon.
Vector. Ouais.
Et donc, ce qui nous permet en fait de stocker et de faire des calculs sur l'ADB directement avec l'instance Postgre. Peut-être que, par contre, on va peut-être avoir des limitations si on veut les comparer à des bases de données qui, elles, sont totalement dédiées et ne font que ça, quoi.
Ouais, maintenant que tu as quasiment toutes les bases de données qui prennent en charge le vectoriel, comme tu dis, Postgre, il y a Redis.
Le type de fichier vecteur, ouais.
Tu en as sur Cloudflare maintenant aussi, il y a les bases de données vectorielles. Enfin, il y a vraiment. Et des bases de données vectorielles, il y en a des tonnes. Mais alors, des tonnes. c'est même difficile de s'y retrouver, c'est tellement il y en a, quoi. Ouais. Il y en a beaucoup d'open source, donc ça, c'est bien. Mais des vrais open source que tu prends, que tu self-host toi-même. Et puis, voilà, ChromaDB, tout ça, c'est du self-hosté. Qdrant, je crois. Pincon, c'est pas de l'open source, c'est payant. Voilà, il y a un choix incroyable. Alors après, il y a des différences. Hein, alors après, c'est assez technique pour voir les différences, tout ça. C'est pour ça qu'il y a des tableaux de comparaison. Mais après, ça dépend le besoin, tout ça. Mais déjà, voilà, PG Vector, tout ça fait déjà le taf de base. Tu as déjà des résultats concluants.
Ouais.
Mini-search aussi, on en parlait encore dans le dernier épisode, qui peut être intéressant sur des recherches. Quand tu n'as pas une grosse base de données, de documents, tout ça, bah, ça peut être des résultats assez pertinents, d'autant que maintenant, ils prennent en charge la recherche vectorielle, tout ça, et on peut régler le curseur plus ou moins du texte ou du vecteur. Donc,
ça sémantique, peut être assez intéressant. Full texte,
ouais.
Hybride.
C'est ça. Hybride et rapidité surtout, elle est super rapide, donc ça peut être une solution intéressante. En tout cas, moi je l'ai déjà inclus dans des tests et ça, c'est assez concluant.
Ok, et
des recherches sur recherches.
Ok, top. De toute façon, je pense que sur double slash, on est pro Mailisearch. Là-dessus, on est d'accord. Ouais,
c'est pour ça qu'il va nous offrir une base de données dans pas longtemps.
et pour le coup, on en parlait. Et là, tu nous mets un article justement où la base de données spécifique, là, en fait, il y a beaucoup de documentation sur les RAG, pardon, et sur justement comment utiliser toutes ces bases de données, comment optimiser tout ce process-là. Mais derrière, sur la base de données purement, voilà, on vient enregistrer, on vient faire une recherche. C'est assez basique. Il n'y a pas une sémantique à réapprendre, comme par exemple, je pense au SQL, quand on veut faire du SQL. Voilà, il faut apprendre quand même à construire ta query. Sauf que maintenant, souvent, en fait, il y a des ORM, en fait. Est-ce que là, sur ces bases de données, on va dire vectorielles, est-ce qu'on va avoir, en fait, c'est des API REST où on va lui donner un élément, une query ou un vecteur. On va lui donner un vecteur et il va te renvoyer tous les vecteurs qui sont similaires. Comment ça se passe? C'est quoi
Il y a différents. Elles marchent toutes un peu différemment, mais après, la plupart du temps, elles ont des librairies disponibles, que ce soit en Python, en JS ou même parfois en PHP. Tu as des librairies qui permettent de communiquer avec ta base de données. Donc, la plupart du temps, les tools et l'écosystème sont là pour se brancher facilement. Tu vas filer des vecteurs ou une query. Alors, celle que tu as sous les yeux, la Viviat, elle est pas mal. D'ailleurs, c'est des mecs du Pays-Bas qui font ça. Elle est intéressante parce qu'elle intègre pas mal de choses. Elle est capable de... En fait, il y a des choses qui sont... Elle va embedder automatiquement. C'est-à-dire que tu ne vas pas le faire toi-même. Tu vas envoyer le texte, un peu comme Minisearch d'ailleurs, pour le coup, pas fait exprès. Mais... En fait, tu vas lui envoyer les chunks et elle va elle-même embedder et stocker. En fait, t'auras pas besoin de faire de passage par l'embedding avant. Tu lui envoies directement le texte et elle est capable de l'embedder. Et pareil pour les requêtes, elle est capable de. Tu lui mets juste une query en texte et elle va le transformer et faire la recherche. Donc c'est déjà tout intégré en fait.
Ah ouais, donc en fait, ça vient faciliter le boulot de ma boule du dev parce qu'il a uniquement à implémenter cette base de données et toute la logique en fait de chunker les documents, de créer l'embedding, de le stocker, tout ça en fait c'est fait automatiquement par l'ADB. Donc en fait, c'est bien au-delà en fait d'une simple base de données, c'est quasiment un écosystème, un service clé en main, quoi, on pourrait dire.
Ouais. Celle-là, elle est vraiment pas mal. Et puis, t'as pareil, t'as l'hybride cherche. Donc, tu vas. Mais alors, beaucoup ont la recherche hybride où tu vas régler, où tu as le curseur entre un peu plus de texte ou un peu plus de vecteur. Donc, là, il le propose de plus en plus. Parce que des fois, c'est un peu. Suivant les documents, c'est peut-être des fois un peu plus pertinent sur le. Si que tu as un peu plus de texte, ou voilà, ça dépend en fait, ce que tu recherches. Et c'est. Voilà. Mais. Voilà, il n'y a pas de base de données mieux qu'une autre ou moins bien. C'est voilà, chacune a ses avantages et ses inconvénients. Et après, voilà, faut tester,
Et une
faut
fois de plus,
essayer.
une fois de plus, trop de choix et le choix est
Ouais.
toujours difficile à faire, quoi.
Grave.
Faut bien comprendre, mais comme toutes les technos, hein, comme tous les langages, comme tous les frameworks, les librairies, le choix de. Mais là, en plus, c'est hyper primordial. Enfin, c'est hyper important dans la mesure où c'est la base de données, donc c'est le cœur central du business. Souvent, c'est ça. Donc, faut pas se tromper, quoi. Faut pas trop
Ouais,
se
ouais.
tromper. D'où l'intérêt
Mais après,
de faire des tests en amont, quoi.
ouais, la plupart du temps, c'est assez simple. Tu fais un index. En fait, tu crées un index donc qui va correspondre à tes données. Et puis voilà, tu vas rentrer tes données dedans. Juste un truc. Généralement, quand tu crées un index avec une dimension, par exemple, tu crées un index en 512 dimensions. Donc après, tu utilises un modèle qui va te générer des 512 dimensions pour stocker dedans. Il faut que ça corresponde, tu vois, forcément. Et là, du coup, tu peux plus, par exemple, changer de modèle d'embedding pour passer à 1500 ou truc comme ça, parce que ça va pas correspondre. Donc ça va pas matcher. Donc tu vois, il y a des petits trucs comme ça à savoir. Mais voilà. Donc au début, tu
Ouais,
changes ton
le
modèle.
choix de ton modèle, en fait, il est crucial parce que tu vas tout baser là-dessus et derrière, en fait, bah, tu vas être obligé de dérouler toute la suite ou sinon, tu es obligé de tout recommencer, de
Tout réindexer,
recréer,
ouais.
de tout
Voilà.
réindexer, de tout stocker différemment.
Donc ça peut, voilà, si tu as beaucoup de données, ça peut coûter vite cher si tu commences à changer tout le temps.
Ouais,
Donc
on est
généralement,
d'accord.
tu pars, voilà. Moi, je te dis, généralement, je pars sur le modèle, voilà, le truc de OpenAI et je me fais pas chier, quoi.
Ouais, bien sûr.
Vite fait, pour les recherches par similarité, en fait, il y a deux, enfin, les deux principales, c'est euclidienne et cosinus. Alors, on est dans les maths. C'est pas mon point fort, mais. Donc, euclidien, c'est la mesure physique entre deux points vectoriels. Voilà. Et la similarité cosinus, donc, c'est généralement celle qui est le plus utilisée. On est souvent réglé en cosine. C'est l'angle entre deux vecteurs. Donc, si l'angle est proche de zéro, c'est similaire. Et s'il est proche de 90 degrés, c'est différent. Voilà. Voilà, donc, généralement, souvent, les bases de données, tout ça, sont réglées en cosine. Voilà. C'est la plus utilisée.
Ok.
Voilà.
Parfait. C'est ultra. Alors là, pour le coup, est-ce que nous, en tant que simple dev et d'utilisateur, est-ce qu'on a besoin de comprendre ça ou pas tellement?
Bah si, il faut comprendre quand même comment ça fonctionne, même si on est toujours sur du cosinus, mais après, il y a aussi des systèmes d'index différents. Alors, c'est ça aussi dans les bases de données vectorielles. Il y a des systèmes d'indexation qui sont un petit peu différents, avec des acronymes, tout ça. Alors là, ça devient hyper complexe. Bah, je ne suis pas encore calé là-dessus. Mais...
Là, c'est des pures maths, quoi.
Ouais, puis c'est une question de performance aussi, parce que c'est quand même assez gourmand quand tu commences. Les bases de données alors déjà, ça stocke beaucoup de vecteurs, donc c'est beaucoup de poids. Enfin, beaucoup de gigas, suivant ce que tu vas stocker et suivant le nombre de dimensions. Et puis derrière, quand tu recherches la base de données, recherche dedans, ça, c'est consommateur de ressources. Donc,
Ça mouline.
ouais, ça mouline. Donc, voilà, c'est important quand même de savoir sur quoi tu te règles tout ça pour avoir un hardware qui est correspondant, tout ça.
Bien sûr. Ok, donc ça c'était pour la base de données. Est-ce que maintenant on n'a pas un espèce. Alors on l'a déjà vu avec des services qui font base de données mais qui font aussi tout l'écosystème. Néanmoins, si moi j'ai déjà implémenté quelque chose, est-ce qu'il n'y a pas en fait des espèces de frameworks ou un processus, des librairies qui essayent de faciliter en fait cette mise en place de tout cet écosystème, de tout ce qu'on a vu d'un RAG par rapport si je fais du PHP sur du JS, du Python, est-ce qu'il n'y a pas des frameworks qui existent pour justement cette mise en place de RAG?
Ouais, il y a des frameworks et ça c'est cool. Alors généralement c'est beaucoup de Python. c'est énormément de Python. Il y a beaucoup. Alors, si tu fais du Python, t'es le roi du monde pour tout ce qui est RAG et tout ça, parce que là, t'as une tonne de librairies disponibles, de frameworks et tout ce que tu veux. Mais nous, on est des développeurs web et on aime le JS, on aime le TS et on aime le PHP. Donc, enfin, un peu plus moi le PHP. Mais...
ouais, on est d'accord. Mais il existe du.
Donc, ouais, il y a des frameworks, ouais.
Et il existe le LLM Fant, qui est un framework dédié à l'IA en PHP, ouais. C'est ça ?
Ouais, là, alors ça, c'est un framework qui est plutôt... Alors, il n'est pas complet, c'est pas un truc pour faire... Alors, on parle souvent de pipeline pour les racks, tout ça, c'est-à-dire tu as une chaîne de... Voilà, une chaîne de comment on peut appeler ça ? Une chaîne de séquences, où c'est séquencé en étapes, voilà. Aller chercher dans la base de données, récupérer les trucs, faire le prompt, envoyer, récupérer la réponse, etc. Donc, on part souvent de pipeline. Donc, après, là, on va parler de deux frameworks. Donc, celui en PHP, il permet de faire pas mal de choses, mais c'est pas aussi complet qu'un framework, vraiment, où on peut faire des pipelines, tout ça. Mais on peut faire déjà des choses. Donc, si vous êtes plutôt PHP, bah, c'est plutôt intéressant.
Et ça là, je vois sur le repo qu'il y a un tutoriel complet de comment faire un RAG avec Symfo, OpenIA. OpenAI c'est un tuto en français en plus, donc pour les amateurs de PHP qui veulent tester ça, il y a peut-être moyen de faire un truc sympa. Cool.
Ouais, parce que de toute façon c'est du script assez, enfin quand tu réfléchis c'est du script assez simple, hein. Tu prends la requête, tu vas chercher la base de données, tu récupères le résultat, tu fais ton prompt, t'envoies LLM, tu récupères la réponse et tu la renvoies. Voilà, c'est juste un script assez basique, donc tu peux le faire. Voilà.
Yes. Cool. Et autre pipeline ou séquenceur, ou en tout cas, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Alors, pour le coup, tout le monde connaît quasiment Vercel. Ils ont sorti un AI toolkit qui, lui, pour le coup, est en TypeScript. Par contre, est-ce qu'on va retrouver les mêmes outils qu'on a vu tout à l'heure, ou là, c'est plutôt vraiment... plus séquencé, ou est-ce qu'on va pouvoir faire la même chose, ou c'est justement beaucoup plus généraliste, il va falloir creuser étape par étape?
Non, alors l'outil là, il est bien, le SDK Vercel, parce qu'il unifie en fait l'appel à différents modèles, différents providers. Donc pour ça, il est vraiment cool ce toolkit, parce que en fait, c'est à peu près toujours la même chose, juste tu as des fonctions et tu vas appeler des modèles. Tu vas appeler Anthropic ou tu vas appeler OpenAI ou n'importe quoi. Et puis, en fait, tu as juste à changer le nom du modèle. Voilà, et en fait, tu utilises toujours les mêmes fonctions. Donc, c'est vraiment très pratique. À savoir que d'ailleurs, on en parlera juste après, mais Mastra, une partie du code de Mastra est basée sur le AI SDK de Vercel. Donc,
okay.
Donc c'est une librairie qui est bien foutue et qui donne accès vraiment facilement avec du code très très simple au LLM, tout ça. Donc pareil, comme le système PHP juste avant, ça te permet de faire avec très peu de code, tu peux faire un RAG ou n'importe quoi, ou un agent, ou des trucs comme ça.
Et pour le coup, le SDK est facile à utiliser et on peut switcher d'un modèle à l'autre, quoi. Facile.
Oh. Yes.
Et pour ceux qui sont un petit peu plus vénères, on va dire, et qui veulent, on va dire, tout faire à la main, il existe un framework qui est dédié à ça pour justement créer tout ce pipeline, là, comme tu disais. Ça s'appelle LangChain. Et là, pour le coup, il y a deux versions. Il y a la version Python et la version JavaScript.
C'est ça. Il y a LangChain, c'est un des plus anciens avec Llama Index. Donc là, on est vraiment sur des toolkits qui permettent de faire vraiment des chaînes d'événements. Et c'est plutôt bien fait. La doc est super pourrie, mais il faut le dire. Voilà, la doc est vraiment pas terrible. Et il y a très peu de ressources sur le web. Quand tu cherches vraiment des infos, c'est pas évident à trouver. Donc moi, j'ai été jusqu'à aller dans les repos GitHub pour trouver des exemples et tout.
Ah ouais.
Qui avait fait des... ouais. Ah ouais, vraiment difficile à trouver. Par contre, c'est assez puissant, parce que c'est capable de gérer pas mal de choses. C'est vraiment bien fait. Tu peux loguer, etc. Alors, il y a un truc qui est super intéressant, c'est que... Ah, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, mais à force de faire des RAG, tout ça, c'est qu'à un moment donné, tu vas faire ton truc, tu vas faire ta recherche dans ta base de données, tu vas envoyer au LLM et tu vas faire la réponse. Et après, la personne va reposer une autre question et à un moment donné, là, tu as une sorte de... d'étapes dans ton process où tu vas décider est-ce que tu refais une requête ou pas, ou est-ce que tu fais, avec ce contexte que tu as déjà, est-ce que tu es capable de répondre à la question, tu vois. Et voilà, ça te permet de faire des trucs comme ça où tu définis, en fait, est-ce que je refais un appel ou pas, est-ce que, voilà.
Donc, c'est vraiment des... Et t'as un concept qui est pas mal, où j'ai vu une conf là-dessus sur Redis, justement, où il parlait de sémantique caching, où justement, en fait, il va mettre en cache, en fait, cette réponse. Et avant, en fait, de faire appel, en fait, au LLM, pour, ou en tout cas, ou RAG, ou qu'importe, en fait, il va déjà regarder s'il y a une similitude avec ce que j'ai déjà mis en cache. Et en fait, ils vont économiser beaucoup d'argent et beaucoup de ressources et beaucoup de rapidité aussi. Et donc, c'est un concept de sémantique caching qui est super.
C'est ce que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, à force de creuser. Et justement, LangChain, tout ça, te permet de faire ça parce que tu as un système de gestion de mémoire. À un moment donné, il va falloir stocker tes différentes réponses pour garder un contexte de conversation, en fait. Et c'est là où tu vas, avec ces frameworks comme LangChain ou Mastra, tu vas pouvoir rajouter de la mémoire. Donc, ça va être soit mémoire du serveur, soit tu vas mettre une petite base de données SQL ou du Postgre, n'importe quoi. Et ça va stocker, ça va récupérer. Et c'est là où, en stockant cette conversation, à un moment donné, tu vas gérer ce truc où tu vas dire est-ce que je réponds ou est-ce que je... Voilà. Et ça, c'est important parce que je te donne juste un exemple. Par exemple, quelqu'un qui dit « Ouais, alors je suis beaucoup sur les formations ces derniers temps, mais imaginons, ouais, je cherche une formation pour être peintre. » Et donc, le LLM, je vais faire la recherche, tout ça, je vais répondre. Je vais lui dire « Voilà, il y a telle formation, telle formation, telle formation. » Trois formations, par exemple. Et là, tu vas lui dire « Ah ouais, la deuxième m'intéresse. » Là, la deuxième m'intéresse. Ce n'est pas une requête à la base de données, tu vois. Et c'est là où il faut décider de répondre par rapport au contexte d'avant. Et donc, le LLM, il va prendre le deuxième et répondre à la question sans faire de requête à la base de données, etc. Et voilà, il faut prendre des décisions. Donc, c'est un arbre de décision et c'est grâce à ces frameworks que tu arrives à le faire. En fait.
Excellent. Excellent. Et pour le coup, on est obligé de parler de Mastra, en tout cas en parler, on va dire.
Je suis totalement fan.
Ouais. Alors, moi, j'ai pas eu le temps de m'y mettre, mais il y a un truc qui est sûr, c'est que le site internet, il déboîte. Il est trop joli.
Ouais.
Il est super bien fait. Et tu valides le fait que la doc est aussi super bien faite?
Alors, la doc est bien. Il y a beaucoup d'exemples. Et pourtant, c'est récent. Hein. C'est hyper récent, Mastra. Ils ouvrent à peine en bêta le cloud parce qu'ils ont un système de cloud qu'ils vont ouvrir où on pourra stocker, déployer des agents. Donc, ça, c'est cool. Je viens d'avoir un email il y a 2 jours là, pour avoir accès. C'est vraiment tout neuf, mais le site, il est bien. Le système est vraiment bien pensé. Ils ont un système où tu vas brancher des tools dessus, etc. Machin. Donc, c'est vraiment... Voilà, c'est des workflows. C'est ça le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, workflow. Et donc, il y a plein d'exemples et tout. Donc, pour l'instant, ils sont motivés, ils font des choses bien. Et je trouve que c'est cool et c'est du TypeScript. Donc, c'est du langage qu'on connaît, qu'on maîtrise. Donc, là, il y a vraiment un framework qui est complet, qui va permettre de faire des agents super avancés. Quoi.
Nice. Et c'est pas celui-là où on disait qu'on ne voyait pas le tarif pour l'instant?
Non, il n'y a pas de tarif. De toute façon, le framework en lui-même, il est open source. Donc, okay. On pourra l'utiliser dans tous les cas. Et c'est le cloud, en fait, qui va être payant, le déploiement. Donc, c'est un peu le même modèle que... Alors, c'est les fondateurs de Gatsby. Enfin, c'est quelques fondateurs de Gatsby, parce que d'autres... Okay. Electric SQL, qu'on a parlé dans la dernière news, c'est un des fondateurs de Gatsby aussi, ouais.
Ok. En fait, ils ont pris le pognon et ils repartent sur un autre projet, quoi.
Ouais, ils sont partis sur d'autres projets. Donc, il y a celui qui fait Electric SQL et puis là, Mastra. Donc, ils ont un peu le même modèle, tu vois. Ils vont faire du cloud payant et puis le framework autour. Alors, j'espère qu'ils vont continuer, pas comme Gatsby. Ouais.
Ouais,
mais,
le
truc est cool et moi, je suis totalement fan. Et voilà. C'est mon... D'ailleurs, je vais remplacer certainement LangChain par Mastra.
Ok, ça y est, c'est fait. Et,
non, mais c'est clair.
Et pour le coup, quand tu auras bouclé et tu l'auras utilisé sur de la prod avec les clients, tout, tu nous feras un retour parce que c'est super intéressant. Cool. Trop bien. Trop bien.
Alors, ensuite...
Bah, est-ce qu'on n'est pas obligé aussi de mettre en place des sortes d'évaluations de savoir si en fait on est dans le juste ou on est juste à côté de la plaque?
Bah, c'est ça, il faut évaluer ton modèle, tout ça, tes réponses en fait. Donc il y a des outils d'évaluation maintenant qui existent. Donc c'est un des points forts de. Alors là, on est sur LangChain. Ça s'appelle LangSmith. LangSmith, c'est un écosystème autour de LangChain. Donc c'est là où ils vont gagner de l'argent et ils vont faire payer. Pour l'instant, c'est gratuit tant que c'est en bêta, machin. Donc c'est cool. Donc LangChain est capable de. Le système, quand tu utilises LangChain en JS, il est capable. Tu vas te brancher à LangSmith et il va loguer en fait toutes les réponses, etc. Donc ensuite, tu as un dashboard, tu vas dessus et tu as les conversations en fait qu'il a eues, etc. Et ensuite, tu as un système d'évaluation. Donc tu vas lui. Voilà, il y a du code, des frameworks de test. Enfin, il y a un système de test dans le framework qui te permet de lui lancer des évaluations. Ça va stocker les évaluations et après, tu vas regarder est-ce que la réponse est correcte, etc. Machin, et tu vas ajuster. Donc, l'évaluation est super importante. Tu as deux évaluations. Tu as l'évaluation déjà de la recherche de ta base de données. Déjà, tu vas essayer de voir quand tu tapes des queries que ça corresponde à ce que tu as, la réponse correspond à la query. Et ensuite, tu as la réponse qui est super importante, voilà, où tu vas regarder que le LLM répond correctement. Donc, tout ça, c'est hyper important parce que c'est la qualité de ton LLM, de ton RAG qui. Voilà. Donc, il y a des outils pour ça, il y en a plein.
Ok.
Et qui sont bien faits. En général, ils sont plutôt bien faits.
Dont LangChain, il y en a peut-être un autre, non ? Qui s'appelle DeepEval. C'est la même chose ? Est-ce que ça correspond à la même utilité de venir en fait évaluer la performance en fait de tout ton écosystème RAG?
Ouais, c'est pareil, tu vas lancer des commandes et ça va évaluer, en fait ça va faire des appels au LLM, il va prendre les réponses, il va les loguer et ensuite tu évalues en fonction des réponses, tout ça.
Par contre, est-ce que tu viens loguer les questions et les réponses en production ou tu es dans un contexte un petit peu à part, parce que là, tu vois, je me pose la question de tout ce qui est pas RGPD, mais tu vois, s'il pose des questions, là, tu vois en fait les questions que les utilisateurs finaux ont posées ou tu vois pas, ou c'est dans un modèle à part. Tu vois, est-ce que tu es dans un contexte à part ou pas du tout? Tu vois
non,
vraiment.
Non, alors, t'as l'évaluation qui est stockée en évaluation dans un contexte à part des conversations en production.
Ok.
Et t'as un log aussi des conversations en production.
D'accord.
Donc oui, tu as accès aux conversations. Après, c'est des stockés en sécurité, tout ça, mais...
Ok. Mais après, c'est aussi super intéressant pour faire de l'analytics, justement, ouais. De voir en fait qu'est-ce qui est posé et pour potentiellement aussi faire du cache, quoi, de la sémantique. Parce que entre des... Je ne sais pas si je pose 50 fois, ou en tout cas 50 utilisateurs posent 50 fois la même question... Clairement, je vais faire tourner ma machine pour pas grand-chose, quoi. Alors que si je l'ai déjà caché une fois, les autres vont pouvoir en profiter, quoi. Donc, d'où l'intérêt de loguer pour faire de l'optimisation, quoi, clairement.
Ouais, de toute façon, ouais, après, entre les conversations, tu caches pas vraiment, mais par contre, le fait de vérifier tout ça, les réponses, tout ça, c'est vachement important pour dire, là, il a complètement répondu à côté de la plaque, il faut que j'ajuste un peu le truc ou le prompt, peut-être il faut que je revoie un peu le prompt ou des trucs comme ça. Et des fois même, moi je regardais des logs de conversation, je me dis putain, il a réussi à répondre à ça, j'hallucine en fait. Je sais pas comment il a fait, même moi j'étais pas au courant en fait. Tu vois, donc des fois il est capable de répondre à des questions et c'est là où tu te rends compte, ah ouais, c'est pas mauvais, les réponses sont bonnes et tout. Donc, ouais.
Top.
Ouais.
Cool ça.
Donc, ça c'est hyper important quand même.
Ouais. Ok, et tout ça, c'est des outils qui sont quand même assez tech. On voit aussi l'émergence en fait d'outils un peu no-code. Et est-ce que il n'y a pas possibilité de brancher tous ces outils en fait pour créer des RAG sans pour autant être vraiment pur dev et pur tech?
Alors ouais, il y a des outils low-code et moi j'ai commencé par ça et ça m'a fait pas mal progresser. Donc il y a deux outils moi que je connais et que j'ai utilisé qui sont pas mal. Après il y en a certainement d'autres, mais voilà, il y a deux outils qui te permettent de faire du LLM. Alors maintenant je sais que si tu peux aussi faire des choses avec les outils d'automatisation, tu peux réussir à faire des choses. N18N, tout ça là.
Zapier, tout ça.
Donc là t'arrives à faire des trucs, mais sinon il y a Flowise et Diffy là qui sont deux outils low code entre guillemets qui te permettent de faire du RAG ou des agents Vraiment, alors le mieux, moi, c'est Diffie. Le Diffie, il est vraiment complet. Et tu peux le brancher à différentes bases de données. Tu peux faire des agents, tu peux faire des rags, etc. Tu peux faire plein de choses. Le Flowise, celui qu'on a sous les yeux, là, il est un peu plus complexe, un peu plus technique. Donc, c'est plus orienté développeur. Mais les deux outils permettent vraiment de faire des choses concluantes, vraiment avec un outil graphique. Et ouais, c'est pas mal, hein, franchement. Et ça permet de progresser. Moi, j'ai appris, enfin, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses avec ça. Le fonctionnement, etc. Ça te permet de faire plein de tests rapidement, sans coder, etc. Donc,
et pour le coup, mais en fait, on n'a jamais fait un sujet typiquement sur le no-code, mais je reste intimement convaincu que les meilleurs no-codeurs, ça reste quand même les développeurs, quoi. Parce que, en fait, ils vont pouvoir hacker, ou en tout cas, ça va être hyper facile à mettre en place, et potentiellement, ça peut aller beaucoup, beaucoup plus vite, quoi. Et toi, tu vois l'intérêt, même en termes pédagogiquement parlant, c'est super intéressant.
C'est hyper intéressant. Ouais, c'est hyper intéressant parce que c'est visuel, donc tu comprends le process, et ouais, c'est vraiment bien, quoi. Et puis, comme tout est prévu au niveau des réglages, tout ça, donc des fois, tu découvres des choses que tu connais pas, tu vois qu'il y a des réglages. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de trucs. Et Diffie, pour le coup, alors c'est chinois, Diffie. Tu peux l'auto-héberger, c'est pas très compliqué en Docker de l'auto-héberger. Et tu peux, alors lui, il est capable de, tu vas rentrer les documents, il va les vectoriser, il va les stocker. Ensuite, tu vas faire ton outil pour aller rechercher. Il fait un chatbot déjà tout prêt à l'emploi, etc. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant pour tester, apprendre et tout, et même l'utiliser. Moi, je sais que je vais en prod là pour faire un chatbot pas trop cher en tarif.
Diffie.
Ouais, Diffie, c'est vraiment pas mal.
Par contre, on est bien d'accord que Diffie, c'est une solution clé en main. C'est tout l'écosystème, quoi. C'est l'outil qui va te permettre de faire un rag de A à Z. Sans pour autant en fait avoir tout ce pipeline, voilà, c'est un peu la solution clé en main, quoi.
Ouais. Tu fais le pipeline, mais dedans, et tu peux faire plein de trucs. Tu peux même faire des agents que tu vas utiliser dans ta boîte ou toi-même sur une base documentaire pour faire des recherches sur un domaine spécifique, etc. Donc vraiment super outil. J'encourage vraiment à tester parce que ça permet de mettre un pied dedans. De voir comment ça fonctionne, de comprendre le process d'un rack, tout ça, des bases de données, tout ça. Et puis après, si on a envie, pourquoi pas passer sur du code pour aller dans un truc un peu plus spécifique et customisé, etc. Mais déjà, avec ça, on a déjà pas mal de choses.
Excellent.
Et après, ouais, Flowise est beaucoup plus... Alors, Diffie est accessible en tant que dev, tout ça, on s'y retrouve très facilement. Et voilà, plein de bases de données qu'on peut mettre, tout ça. Flowise est plus complexe. Déjà, alors, il vaut mieux commencer par Diffie pour commencer.
D'accord. Top. Parfait, tout ça. Je crois qu'on a un peu fait le tour on va dire pas de tout l'écosystème RAG parce que c'est très, très, très vaste. Mais en tout cas, je pense qu'on a brossé tous les aspects du RAG.
Ouais.
Et toi, c'est des choses que tu as déjà vendues ou pas encore?
Ouais, j'ai deux trucs vendus déjà et ouais, j'en ai deux vendus. Un, ouais. Oui. Et peut-être d'autres derrière. Et surtout maintenant, moi, je me suis mis sur le code complètement. Alors au début, j'utilisais des outils low code là qu'on vient de voir.
Diffie. Ouais.
Pour commencer, voilà, c'est assez récent. Hein. Moi, ça fait quelques mois et je me suis mis au code il y a peut-être deux mois, enfin début d'année là. Et pour expérimenter tout ça, j'ai essayé avec LangChain. Et puis, c'est pas simple. Mais quand on part sur du JS, du TS, avec notre background de développeur, on arrive à s'en sortir. Donc, c'est intéressant. Et puis, voilà. Là, il y a plein d'outils qui sortent comme Mastra, tout ça. Donc, ça va être de plus en plus facile, je pense, pour nous, développeurs web, tout ça. Où on n'est pas forcément à l'aise avec du Python. Donc, il y a de plus en plus d'outils. Et puis, ça va faire que continuer. Et puis, là, en plus, avec les nouveaux serveurs MCP qui arrivent. Alors, c'est un peu différent, mais voilà, il y a tout le monde s'y met aussi. Donc, voilà, il y a plein de possibilités qui arrivent pour développer des outils. Voilà.
Yes. Et pour le coup, les clients sont plutôt friands de ça, sont en attente, ou il y a encore cette phase de pédagogie à apporter, d'expliquer les choses, et surtout d'expliquer, de montrer le bénéfice de mettre ça en place.
Alors, les, Alors, les clients qui vendent du marketing, ils adorent le vendre, ça. Ça les fait kiffer. Ils adorent mettre IA et vendre des chatbots et tout ça. Donc, après, les boîtes en elles-mêmes sont plutôt frileuses pour l'instant. Ils attendent de voir un peu. Surtout, là, ils sont un peu frileux par rapport au coût, en fait. Parce que, d'ailleurs, l'État avait sorti un. J'avais téléchargé un document PDF sur développer son RAG, tout ça, un truc officiel de l'État, voilà combien. Et ils annonçaient les tarifs entre 50 et 100 000 euros pour développer son RAG, etc. Donc, quand tu es une boîte. Ouais, c'est. Parce que, ouais, après, voilà, ça dépend de la base documentaire, tout ça, mais voilà. Quand tu es une boîte, ça représente vite un coût. Voilà, je connais une boîte aussi où une société est venue les voir pour leur vendre un RAG spécialisé dans le légal ou un truc comme ça. C'est pareil, c'était un coût de 30 000 euros à peu près. Du coup, on est vraiment sur des tarifs pour l'instant assez élevés. Donc, pour les sociétés, bah, elles attendent un peu de voir avant d'investir des sommes comme ça. Parce que, voilà, est-ce que c'est vraiment besoin, nécessaire? Est-ce que ça va bien marcher, etc. C'est, voilà, elles ont plein de questions. Donc, il va falloir un petit peu se spécialiser pour répondre aux questions.
Ouais. Et moi, je vois, j'ai deux types de clients qui sont radicalement tous différents, mais vraiment diamétralement opposés. C'est ceux qui sont hyper friands et ils sont en attente de « vas-y, mets-moi de l'IA partout, tes LLM, là, machin, moi, je veux l'implémenter dans ma boîte ». Donc, ils sont hyper demandeurs. Et voire même parfois, en fait, too much, quoi. C'est-à-dire, OK, bah, tu veux un chatbot pour faire ça. Non, mais je veux de l'IA dans ma boîte. Mais en fait, ils ne savent pas clairement où est-ce qu'ils peuvent mettre de l'IA. Mais ils sont plutôt en attente de solutions basées sur l'IA. Pour souvent optimiser les coûts, pour augmenter la productivité, pour faciliter le boulot des opérateurs, du personnel de manière générale. Et à l'inverse, autre spectre de clients qui ne veulent pas du tout en entendre parler, souvent parce que incompréhension totale et ils ont peur de l'IA et donc ils veulent pas en entendre parler, ils font un peu la politique de l'autruche, quoi, en mode je ne veux pas utiliser ça, je ne veux pas manger de ce pain là mais c'est plus sous couvert un peu idéologique, quoi. Donc
oui, je comprends.
C'est en tout cas, moi, c'est vraiment la plupart du temps, c'est noir ou c'est vraiment noir ou blanc, quoi. C'est assez radical sur le positionnement.
Ouais.
Moi, je pense que, alors à titre perso, je pense qu'il y a vraiment de la pédagogie à faire. Et je pense que tu fais bien, tu vois, de monter en compétence sur des solutions que tu maîtrises et surtout venir avec des exemples. En fait, je pense que c'est la meilleure façon de convaincre un client, c'est de lui montrer déjà quelque chose de concret. Parce que déjà, la plupart dans notre métier, l'informatique, c'est déjà hyper abstrait, ils ne comprennent pas tout. Là, en plus, si on met le mot IA à l'intérieur, c'est encore plus mystique. Venir avec une solution concrète qui répond à un problème concret, mais la solution utilise l'IA. Là, pour le coup, c'est peut-être sans doute beaucoup plus facile de le convaincre et qu'à la fin, il signe et il fait le chèque et pour qu'on vienne développer ça, quoi. Donc, carrément.
En fait, il y a plein de. Alors, tu vois, j'avais vu un meet-up en vidéo sur Le Bon Coin où ils utilisaient ça pour répondre aux questions de l'assistance. Donc, ils avaient développé un truc qui répondait aux emails, en fait. Parce qu'ils se rendaient compte que la plupart des questions étaient dans les FAQ. Donc,
mais bien sûr, bien sûr.
Le RAG, aller chercher dans les FAQ pour répondre aux questions. Mais bon, malgré tout, ils utilisent que pour. Je crois qu'ils disaient 10% des réponses, c'est généré par le RAG. Donc, c'est pas énorme, tu vois. Ouais. Mais bon, ça fait gagner du temps. Après, moi, j'avais un autre projet là qui était, finalement, il ne va pas se faire, mais il y avait l'exemple, par exemple, c'était des fiches, c'était des vendeurs, donc remplir sa fiche vendeur, etc. Et à un moment donné, le texte, l'idée, c'était de, quand ils remplissent le texte, le faire corriger par l'IA, tu vois, automatiquement, etc. Donc, ça peut être des idées pas mal, qui ne sont pas compliquées à mettre en place. Et puis, il y a un truc super important, c'est que si jamais on fait des chatbots dans des boîtes, j'avais écouté un podcast là-dessus justement pour les gens qui avaient fait un truc de documentation en interne dans l'entreprise et qu'ils avaient mis sur le chat en Teams, là, tout ça. Ils avaient retardé le lancement parce qu'en fait, ils voulaient que le truc soit vraiment abouti et que les réponses soient bonnes, en fait. Parce qu'en fait, a priori, quand tu lances un chatbot, un RAG, si jamais au début les réponses sont un petit peu à côté de la plaque, tout ça, le risque c'est que les gens arrêtent de l'utiliser assez rapidement et que ton truc, en fait, dans l'entreprise, t'auras investi pour rien. Et
ça fait un flop total, quoi. Ouais,
Ouais, c'est ça.
là pour le coup, t'as pas la deuxième possibilité de faire une première bonne impression, quoi.
Ouais, il faut vraiment faire une bonne impression pour que les gens l'adoptent et travaillent avec, quoi. Si
Yes.
le truc est pourri dès le début, ils vont vite le laisser tomber et tu auras investi 30 000 balles pour rien, quoi.
Ouais. Bon, nous, on a pris notre chèque, mais bon.
Ouais,
Non, je déconne,
c'est
c'est
clair.
pas. Il faut pas dire ça parce que c'est une vision très très court-termiste
Ah, mais
et
après, ça
donc
va, ouais, ça va donner une mauvaise image et
c'est
puis
pas bon, c'est pas bon du tout quoi. Donc non, il faut que ça soit quali. Top. Patrick, on en reste là pour cet épisode.
Yes.
Ça marche.
Ouais.
Dites-nous dans les commentaires si vous êtes resté jusqu'au bout de l'épisode. Déjà, on vous remercie grandement. Et
Ouais, merci, ouais.
dites-nous dans les commentaires si vous êtes plutôt hypé par cette tendance-là, si vous êtes prêt à y passer du temps, si vous voyez le potentiel technique, si ça vous intéresse, si vous voyez un potentiel commercial. On est hyper curieux de vos retours. Et en tout cas, nous, on est plutôt à fond là-dedans. Et ce qui est sûr, c'est que dès qu'on les mettra ça en place, on vous fera un retour, évidemment. Un grand merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de l'épisode. Un petit pouce, un petit
Ciao.
commentaire, ça fait toujours
Ouais.
plaisir et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.
Ciao.